Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, l'occasion du festival annuel de l'Alliance française des films, donc des films français en Australie, on a la chance, et je dis la chance et pas avec des petits mots, d'avoir Rebecca Zotowski dans les studios. Bonjour.
Bonjour.
La chance parce que vous devenez une personne importante dans le cinéma français, c'est vraiment un honneur de vous avoir en Australie. Si, si, je vous le dis.
Bon. Il faut venir loin pour rentrer, personne n'est prophète dans son pays. Alors.
Ben, je commence les interviews toujours un peu comme ça, ça détend un peu. Vous venez de nous présenter un film qui s'appelle Planétarium. Un film avec un très beau casting. Racontez-nous un petit peu le cheminement par rapport à ce film et l'histoire de ces deux sœurs.
Oui, ben oui, non, c'est vrai, c'est un casting de temps
de
en
rêve.
Temps. Pour rire, ben, j'ai failli m'évanouir quand elles ont accepté toutes les deux. De temps en temps, je dis oui, elles étaient un peu sous-estimées, il fallait les faire bosser. Bon, c'est Nathalie Portman et Lily Rose Depp. Et ce qui était drôle, donc Nathalie Portman, elle a été intégrée très vite dans le projet. Très rapidement, j'ai quasiment pensé à lui écrire le rôle. Hein. Je savais qu'elle s'installait en France. Je savais qu'elle voulait travailler en français, qu'elle voulait travailler avec des femmes réalisatrices. Bref, ça tombait super bien. Et très rapidement, je me suis dit que c'était vraiment ces américaines médiums qui s'installaient en France dans les années 30, qui allaient être un petit peu sous le coup de ce paradoxe, d'être en même temps extra-lucides, mais en même temps complètement aveugles à ce qui allait se passer. Je sentais que c'était pour Nathalie Portman que j'écrivais. Et elle, très rapidement, elle s'est intéressée aussi à des spirites qui pouvaient... faire entrer aussi une dimension un peu politique. Elle m'a parlé d'une spirite américaine qui m'a fascinée, qui était une nana qui avait été la première à se présenter à l'élection présidentielle américaine, première femme. Bon, ça fait froid dans le dos aujourd'hui. Ouais. Et qui invoquait des esprits pour se faire élire, en fait. Donc c'était assez fascinant.
D'accord. Ces histoires d'esprits, on parle vraiment des années 30, donc c'est de l'avant-guerre. Je crois qu'à la fin du film, vous en parlez, on ne va pas dévoiler, mais bon, à la fin du film...
On peut raconter la fin, quand même.
On peut raconter la fin. Non, mais il y a cette phrase, d'ailleurs, je crois que Lil Depp l'a dit aussi, c'est ils ne savent pas que c'est avant-guerre. On ne sait jamais qu'on est avant une guerre. Et c'est vrai, il y a cette histoire des 30 glorieuses, de cette euphorie qu'il y a à Paris, et ces filles qui sont médiums qui voient en gros pas venir ça.
Bah ouais, et puis qui rencontrent un producteur de cinéma qui tombe complètement sous le charme, qui est complètement fasciné par ce qui se passe et qui se dit on va faire un film où on va fixer les fantômes. Puisque lui-même, il ressent quelque chose. Oui, disons qu'il y avait l'idée de... On traverse en Europe des moments quand même pas évidents. Les États-Unis nous ont rattrapés avec l'élection de Trump. Il y a l'idée... Alors, en Australie, c'est fascinant. D'ailleurs, je vais rester à jamais ici parce que...
Vous êtes bienvenue.
Un sentiment... Merci. Un sentiment de paix et de sérénité qu'on trouve nulle part dans le monde. Il faut vraiment que vous restiez, les auditeurs. Et donc voilà, si bien que l'idée de l'avant-guerre, c'est quelque chose qui nous traverse tous, qui nous fait tous un petit peu froid dans le dos, et que le film a voulu un tout petit peu questionner, recommander en se positionnant dans les années 30. Puis c'était un moment à Paris un peu un moment très cosmopolite, un moment dans lequel vraiment très Mitteleuropa, où des gens de l'Est venaient, des gens parlaient allemand, les gens parlaient italien, les gens parlaient anglais. Il y avait des artistes d'un petit peu partout, et c'est vraiment ce Paris-là que j'avais envie de reconvoquer.
C'est une idée qui a germé dans votre tête pendant un bon moment. Comment vous êtes arrivé à amener cette histoire ou c'est plutôt des rencontres?
C'est vrai que c'est une histoire tellement étrange et malade que ça peut n'être que dans un cerveau déjà détraqué, mais c'est vraiment d'abord le désir de travailler avec des actrices, de les mettre en transe, qui m'a amené à l'idée du spiritualisme. Je suis tombée sur une histoire de sœurs américaines au 19e siècle. J'avais pas envie que ça se passe au 19e siècle, j'avais envie que ça se passe dans un monde plus moderne. Je les ai fait venir en Europe. J'ai inventé elles avaient rencontré, il y avait une histoire comme ça que je trouvais très Hitchcockienne, sublime, où elles avaient rencontré un banquier new-yorkais qui les embauchait pour reconvoquer l'esprit de sa femme défunte. Et il faisait pas un seul placement financier sans faire appel aux filles, aux sœurs Fox. Je trouvais ça génial et j'ai voulu en fait faire une espèce de transposition de cette histoire. Le banquier est devenu un producteur de cinéma français, juif dans l'entre-deux-guerres, qui du coup m'a amené à un autre personnage qui avait existé, dont je me suis ensuite inspirée, qui était Bernard Nathan, un producteur français qui avait réellement existé dans l'entre-deux-guerres, qui avait été victime d'une cabale pas possible et calomnié, envoyé en camp de concentration. Bon bref, tout ça a été une espèce de greffe entre plusieurs histoires, et je me suis demandé ce que ça donnait quand on se faisait rencontrer ces personnages-là.
D'accord. Ce producteur, d'ailleurs, si on s'attarde un petit peu pour dessus, il y a une relation un petit peu avec vous, parce qu'il a été producteur chez Pathé dans l'entre-guerres, il y a le Fémis, vous avez étudié au Fémis.
Oui, c'est vrai que je me suis rendu compte très rapidement que ce producteur... Je pars d'un personnage de fiction, j'essaie de me renseigner un petit peu sur comment je peux écrire ce personnage, et je tombe sur quelqu'un qui me dit « Mais attends, t'es pas du tout en train de raconter une histoire fictionnelle, cette histoire a existé, il s'agit de Bernard Nathan. » Je me renseigne sur lui, et c'est le patron de Pathé Studio. Des studios Pathé, il avait racheté les studios à une époque en plus où les producteurs décidaient d'arrêter de produire des films, mais juste d'éditer des films pellicules. Bref, ils étaient en train de tout laisser aux États-Unis. Donc c'est lui qui a vraiment relancé le cinéma français à un moment. Et il possédait les studios de la Fémis, c'est-à-dire l'école de cinéma où moi j'ai étudié. Donc c'est devenu une espèce de rendez-vous un peu mystérieux et spectral, qui était de me remettre en contact avec quelqu'un qui avait beaucoup compté pour moi sans que je le sache.
Ça vous a fait presque peur, ça? Parce qu'il y a ces histoires de fantômes, de spiritualisme ou pas? Vous n'étiez pas à fond dedans?
Non, je suis tellement rationnelle que j'intègre une part d'irrationnel, disons. Mais non, disons que je suis très, très cartésienne et ce n'est pas le genre de chose qui peut me faire peur, même si j'adore les films d'horreur.
Travailler avec ces deux actrices, Nathalie Portman, on connaît le parcours, on connaît Laura Kala, et puis Lily Rose Depp qui arrive un peu sur la scène mondiale du cinéma. D'ailleurs, il y a un autre film avec elle présent au festival, qui est La Danseuse, qui est également un très beau film. Comment vous avez pu gérer ça? Est-ce qu'elles sont, l'une a pris l'autre sous sa poupe et a vraiment aidé à développer l'intérêt pour l'actrice? Vous avez vu ça se passer
aussi?
Oui.
Bah, j'ai l'impression que la moitié de la direction d'actrice de Lily Rose Depp, c'est Nathalie Portman qui l'a faite. D'abord, ce qui était assez curieux, c'est que c'est elle qui me l'a désignée, puisque c'est elle qui m'a envoyé une image. C'est Nathalie Portman qui m'a envoyé une image de Lily Rose Depp. D'accord. Moi, je la connaissais pas à ce moment-là. Elle était vraiment bébé. Bon, là, elle est toujours bébé. Mm-hmm. Enfin, bébé.
Faut pas lui dire ça.
Non, je dirais plus jamais. C'est une jeune femme.
On coupera.
Elle adore. À la mienne, je l'appelle la petite et j'appellerai la petite toute sa vie. Je pense même jusqu'à ses 75 ans.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est Nathalie Portman qui me l'a désignée. Donc, ça crée déjà une espèce de sororité, d'idées familiales qui me plaisaient, et elles se sont formidables. Je pense qu'elles ont beaucoup en commun. C'est-à-dire découvrir la notoriété très tôt. Nathalie Portman, elle a connu la notoriété avec Léon quand elle avait 12 ans.
Lily Rose Depp, la fille avec Jean Reno.
Oui, avec Jean Reno. Lily Rose Depp, et puis ensuite après, évidemment, Star Wars, tout ça. Mais Lily Rose Depp, elle connaît la célébrité, elle est au centre d'une attention depuis qu'elle est quasiment née, puisque c'est la fille de Qui vous savez et Qui vous savez. Bon. Mm-hmm. Donc voilà, il y a plein de... Il y a vraiment un lien très fort entre leur rapport à la notoriété, puis aussi leur rapport à une double culture. Nathalie s'étant mariée avec un Français, et Lily Rose Depp ayant vraiment une totale double identité. Vraiment, elle peut penser sur le continent américain, sur le continent français. Bon.
Ça a parlé beaucoup aux gens ici. Hein.
Ah ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des familles un peu comme ça.
Entre plusieurs continents.
Ouais, complètement. Ouais.
C'est vraiment le cas de Lily Rose Depp. Et puis je sentais en discutant avec elle que ça ajoutait vraiment pour une adolescente. Elle avait comme un cerveau encore plus complexe. Elle avait vraiment... moi, avec elle, je parlais français. Mais en même temps, avec Nathalie, elle se parlait en américain. Il y avait vraiment comme une richesse immense que je voyais chez elle. Et indépendamment du fait que... C'est injuste, mais il y a un atavisme puissant qui fait qu'elle est splendide, qu'elle capte la lumière, qu'elle sait ce que c'est que de jouer, d'incarner. Donc voilà, je lui prédis vraiment un grand destin, puis je le lui souhaite.
Voilà, alors ça, c'était ma prochaine question. Vous pensez qu'elle a un grand avenir?
Moi, je crois, oui. Je ressens la même chose que... ça, on ne sait jamais, parce qu'après, on ne sait jamais comment on réagit. Et il faut qu'elle en ait envie. Il faut qu'elle ait envie de faire des films, il faut qu'elle ait envie de lire les scénarios, il faut qu'elle ait envie de se plonger, que de travailler, parce que c'est du travail. Mais je ressens j'ai eu le même feeling avec Léa Seydoux, qui était l'héroïne de mes deux premiers films, et que j'ai rencontrée à une époque où elle n'était pas du tout célèbre. Bon, je ne l'ai pas découverte, hein, mais elle n'était pas connue. Puis en quelques années, elle tournait avec Kechiche, Woody Allen, dans les Missions Impossibles, dans les James Bond. Ouais. Mm-hmm. Et donc je sens et j'ai vu sa carrière comme ça se fabriquer, un destin d'actrice se fabriquer avec Léa Seydoux, et je ressens la même chose avec Lily Rose Depp.
D'accord, vous, on va parler un peu de vous maintenant. Troisième film.
On n'est pas obligé de parler de moi.
Hein. Je vous êtes là, on va parler de vous. Non, mais je veux dire, troisième film, vous sentez une progression dans la façon dont vous avez abordé ces films, entre le premier et le deuxième. Le deuxième étant bien sûr celui qui suit tout de suite le premier, donc vous avez pas mal d'expérience aujourd'hui. C'est mathématique, je vous expliquerai.
Ah oui, mais... vous pouvez m'expliquer ça.
Non, mais je veux dire, bon, le deuxième, vous avez la pression parce que le premier, vous avez appris beaucoup, vous avez sûrement fait beaucoup d'erreurs, la pression de ne pas refaire les mêmes erreurs dans le deuxième. Est-ce qu'on atteint une certaine sérénité quand on atteint son troisième film?
Non, pas du tout, hélas.
Ça serait
Ouais, ce serait bien. Je sais, j'ai l'impression qu'on ne capitalise pas son expérience, en fait, au cinéma. On réattaque chaque film, autant à l'écriture qu'au tournage. Alors, parfaitement vierge, je dirais pas complètement vierge, parce que moi, il se trouve que je retravaille avec la même équipe. Et c'est ça qui change, c'est-à-dire cette espèce de rapidité, de compréhension, de communication, disons, avec mon équipe, qui fait qu'on voit les problèmes plus vite et qu'on les résout pas forcément mieux, mais en tous les cas, on arrive à se les formuler. Voilà, c'est la seule chose qui change. Le reste, le cinéma, c'est à chaque fois comme un prototype. Donc, le film, voilà, on ne sait pas du tout à quoi il va ressembler. On ne sait pas comment le saisir et on essaye de faire du mieux qu'on peut en se posant toute une série de questions. On passe notre vie à résoudre des problèmes, quoi, quand on réalise un film. Moi, j'aurais adoré capitaliser un peu là-dessus, mais non, hélas, je crois qu'on se retrouve à chaque fois. Et là, pareil, sur le prochain film que je suis en train d'écrire, c'est tellement différent que j'ai l'impression d'avoir aucune ressource. Enfin voilà, de pas m'y connaître plus. En revanche, j'ai des désirs différents et dans le rapport aux acteurs, ça avance un peu.
Ouais. D'accord.
Avant, ils me faisaient vraiment peur. J'avais super peur avec les acteurs. Et maintenant, je sens que je les vois comme des alliés.
D'accord. Ce festival, vous étiez hier à l'ouverture du festival à Melbourne, parce qu'on est à Melbourne quand on vous parle. Vous en aviez entendu parler. C'est le premier festival, le plus grand festival de films français au monde, hormis Cannes, bien entendu. Vous en aviez entendu parler. Bien entendu, votre film Grand Central était là l'année dernière. Mmh. Est-ce que vous en aviez entendu parler de ce festival?
J'avais entendu que c'était le festival qui intéressait le plus les spectateurs. Je savais que c'était, enfin, cumuler le plus d'entrées, de tickets d'une audience qui avait une attente très très forte, en tous les cas en Australie. Ça, je le savais. C'était la raison un peu de ma venue maintenant. C'est que j'avais entendu comme ça, vraiment, mais après, on est tellement loin. On est tellement loin ici de tout qu'au moment des sorties et des tournées avec les films, c'est la première fois que c'est posé réellement la question, que l'invitation m'est vraiment parvenue, disons. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je savais, un peu comme on sait qu'en Inde, ils adorent le cinéma, qu'au Japon, on fait signer des autographes partout. Et ben, je savais qu'en Australie, il y avait un grand désir pour le cinéma français. Mais voilà, j'en savais pas plus. Là, maintenant, je découvre tout le reste.
C'est un des côtés assez beaux de la mondialisation.
Oui.
Il n'y a pas que la mondialisation à l'américaine, il y a aussi une mondialisation comme ça qui fait qu'on peut voir des films français en plein cœur de Melbourne, de Sydney, voire même ailleurs en Australie.
Non mais je pèse mes mots, c'est vraiment, là où c'est vraiment génial et précieux, c'est que pour des réalisateurs comme moi, qui avons le désir de ne pas nous inscrire dans un système forcément commercial, ou de ne pas faire du cinéma de flux qui aurait seulement destiné au marché, mais aussi faire un cinéma artistique libre, voilà, de défendre cette vision-là du cinéma, c'est plus qu'important de sentir qu'il y a des territoires dans lesquels on est reçu comme là. Et pour moi, c'est ce qui me permet de continuer à faire des films. C'est pour ça que je viens ici, c'est pour ça que j'accompagne le film à l'étranger, et précisément en Australie, parce que quand on sent cette audience-là, quand on sent cette attente-là, des distributeurs qui veulent bien sortir le film, on se sent plus fort et plus libre en France pour imposer nos visions.
D'accord. Sur le marché du cinéma en France, il y a ce système de financement. J'en parle beaucoup aux gens qui réalisent des films. Le système de financement avec le prix d'entrée d'un ticket qui revient dans la production, etc. C'est hyper important que ça reste comme ça.
Bah oui. Il me semble que, en tous les cas, ça c'est certain. Quand je discute avec des collègues, des réalisateurs américains ou philippins, on se rend pas compte, je crois, en France, de la chance du système qu'on a fabriqué et qu'il faut défendre. Je sens que, bon, évidemment, c'est un système qui est perfectible, mais il faut absolument défendre ce qu'on a. L'idée qu'on taxe un tout petit peu le cinéma américain c'est les blockbusters qui fabriquent du cinéma d'auteur français. C'est un cinéma qui, en même temps, se cautionne par les professionnels eux-mêmes qui donnent les avances sur recettes, qui font partie des commissions au CNC. Bref, je crois que c'est un système très vertueux qui permet à des gens comme moi, qui n'avons pas de fortune personnelle, parce qu'aux États-Unis c'est ça, il faut quand même avoir un oncle un peu fortuné pour faire un premier film, mettre 100 000 dollars dessus. Nous, en France, on peut venir de rien et fabriquer des films qui n'ont pas vocation à s'installer dans l'économie de marché. Ça, c'est précieux, c'est ce qui explique à mon avis la diversité du cinéma français. Qu'il existe en même temps des films formidables qui circulent partout, qui sont vendus, mais aussi des films plus difficiles qui sont vraiment défendus dans les festivals comme ici d'ailleurs, ou comme à Cannes, ou comme à Locarno. Donc voilà, c'est vraiment un système ultra précieux. Il est un peu copié de temps en temps. En Corée du Sud, par exemple, c'est un système qui a fait des émules. Lee Chang-dong, qui était le ministre de la Culture, a vraiment mis l'accent là-dessus. Ben, total, le cinéma sud-coréen est devenu génial. Alors, moi, je ne dis pas que notre cinéma est devenu génial, mais je pense que l'une des raisons pour lesquelles il rayonne, l'une des raisons pour lesquelles on se sent un peu aux Jeux Olympiques du cinéma français, traversé de pays en pays, comme ça, avec nos films sous le bras, c'est parce qu'on a un système de production qui nous permet de les fabriquer comme on veut et en toute liberté.
Et ça permet à des festivals comme ici d'avoir, je ne sais pas, un film comme Radin et un film comme le vôtre, ouais. Qui sont aux antipodes du cinéma français, mais qui ont plaisé à un certain public à l'autre bout du monde.
Ouais, bah, et d'ailleurs, ça peut nous plaire aussi. Moi, j'aime beaucoup Danny Boone. Mmh. D'ailleurs, c'est drôle parce que je l'avais rencontré. Alors, ça, c'est un vrai scoop. Je l'avais rencontré pour le rôle principal de Planétarium. Il D'accord. avait été absolument charmant.
Il avait dit non.
Non, il avait... C'était pas tout à fait ça. C'était plutôt que le contre-emploi était tellement énorme que je m'étais dit que ça allait pas... Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, d'ailleurs. Non, non. Bref, en tous les cas...
On l'a eu, Danny Boone, ici.
Ouais,
non, c'est quelqu'un de charmant. Il était super.
Ouais, donc les cinémas se comptent... Enfin, bref, c'est pas complètement étanche.
D'accord, c'est clair, c'est bien. Là, vous avez le temps d'un peu de vous imprégner de l'Australie. On a l'impression que c'est un pays qui vous plaît. Vous l'avez dit un petit peu à...
Bah, quand j'arrive, j'adore. Ce que j'adore, c'est un sentiment de...
Vous étiez
vraiment
déjà venu avant ?
Pacifié. Non, jamais. C'est la première fois de ma vie. C'est la première fois d'ailleurs. C'est ça que j'aime avec le cinéma. Je crois que je fais des films pour ça. J'ai l'impression qu'on m'ouvre une porte secrète que j'aurais jamais poussée moi-même, en fait. Parce que je ne suis pas du tout curieuse dans la vie. Donc c'est vrai, je vais dans les pays à côté comme ça des miens. Mais voilà, pour faire cette grande traversée, non. Je ressens. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est précieux d'arriver dans un lieu sans avoir à ouvrir son sac, se faire scanner, regarder si on n'a pas. Ne pas se méfier les uns des autres. Avoir. Il y a une espèce de. Je trouve surtout à Melbourne, une espèce de richesse architecturale qu'on peut voir en un coup d'œil. La sensation que les gens sont parfaitement imprégnés de culture, très diverses. Il y a des festivals un peu de... Juste hier, j'ai appris qu'il y avait 4 événements le même soir. Donc voilà, ça, c'est des sentiments précieux qui font recharger un peu les batteries.
D'accord. Vous avez hier, dans vos discours, parlé de quelques films australiens qui vous ont fait peur, notamment Waking Fright, qui est un de mes films préférés.
Ouais, j'adore ce
Qui
film.
Est d'ailleurs pas un film australien, c'est un film canadien.
Ah bon ?
Ah oui, ah oui, le réalisateur est canadien. Mais,
c'est qui le réalisateur ?
Je ne sais plus son nom, mais il est canadien. Je retrouve, mais il est canadien, c'est sûr.
Okay.
Mais c'est un film australien fait en Australie sur une histoire australienne qui est extraordinaire. J'engage tout le monde à voir ce film. En plus, avec une histoire extraordinaire, qu'il a été retrouvé. C'est un film qui a été perdu, qui a été retrouvé.
Oui, par Scorsese.
Ouais.
Je crois que c'est Scorsese qui l'a restauré.
C'est hallucinant voilà, de penser
enfin,
ça.
Pas lui-même avec ses petites mains,
non.
Mais.
Avec ses dollars. Mais, mais vous, avez, voilà, vous avez mentionné quelques films australiens. Ouais. C'était pas un pays qui vous faisait vraiment peur, quand même, l'Australie.
Non.
On n'est pas tous des sauvages.
Non, alors
j'étais là hier.
Hier, j'ai blagué en disant que j'avais. En fait, j'ai blagué en disant que de certains territoires, on n'en connaissait que des images et que le cinéma servait à ça. Moi, peut-être à faire découvrir une certaine idée du cinéma français ou de la France. Et évidemment, de l'Australie, je ne connaissais que des images. Comme de Nouvelle-Zélande, je ne connais que les images de Jane Campion. Et là, je vais y aller dans quelques jours et je suis un peu fascinée à l'idée de voir autre chose que Top of the Lake. Ou, oui. Et c'est vrai que j'ai nommé 3 ou 4 films qui se trouvent. Donc, Les Crimes de Snowton, Animal Kingdom, Walkabout et Waking Fright, qui sont des films de criminels. Mais c'était une blague en face d'une audience qui était extraordinairement bien habillée, gentille et hyper, hyper douce. De leur dire, voilà, la représentation que j'en avais, c'était des criminels et des pédophiles. Et vous êtes évidemment très différents. Et voilà. Mais c'était très important pour moi. Waking Fright, ça a été très important pour moi, vraiment, de le retrouver, ce film. La chasse à la chasse au kangourou, l'effet vraiment, je trouve il y a quelque chose de très poisseux et en même temps splendide, un peu comme dans le film de John Borman, comme dans Deliverance, un film dont on se demande comment on peut s'en sortir et en même temps on adore endurer ça, cette espèce de cauchemar. L'image est formidable, il y a une thématique un peu homosexuelle à un moment que je trouve.
Bah, on ne sait pas s'il était violé ou pas.
Je pense qu'ils ont passé une nuit ensemble.
Mais voilà, on ne sait pas. La question se pose.
Je pense qu'ils passent une nuit ensemble avec le médecin.
Bon. Exactement.
Donc voilà, si vous voulez voir ce film, on vous a tout spoilé.
Oui, il y a une horreur, c'est que ce film va être refait. Il va y avoir un remake à la télévision en 4 parties. Et là, j'engage tout le monde à ne pas le regarder.
Oh, mais qu'est-ce que vous en savez ? Pourquoi pas ? Et si c'était très bien ?
Non, on ne touche pas aux icônes comme ça.
Ah ouais ?
Non, pour
moi. Je ne suis pas fétichiste, on va voir ce que ça peut donner.
C'est clair. Le cinéma australien, vous connaissez ça,
Je connais mal, mais par exemple, je connais vraiment ce que je vous ai cité. Je pense que bon, voilà, il doit y avoir des... Je sais que j'étais très intéressée, j'ai demandé à Philippe Platel, directeur artistique du festival, de rencontrer Adam Arcapo, qui était le chef opérateur de Snowton et de Animal Kingdom, parce que voilà, pour moi, c'est des talents... ultra vivant, vivace, qui viennent d'ici. J'aurais adoré le rencontrer.
D'accord. Ça se passera ou pas ? On ne sait pas.
Bah, il habite à Los Angeles apparemment, c'est ça ?
D'accord.
Bah ouais.
Bah, ça se passera à Los Angeles peut-être.
Bah peut-être. Ouais, j'y vais pas tous les jours.
C'était un plaisir de vous avoir dans les studios.
Bah, merci beaucoup de m'avoir invité.
C'était bien sympa. Et voilà, le film, c'est Planétarium. C'est un des clous du festival. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir.
Merci.
Merci Rebecca.
Merci beaucoup.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne.